Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h05, merci beaucoup d'écouter RMC ce matin, les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Simon Dutin, Olivier Giraud, Sarah Pitkovski, Alison Pinot, les grandes gueules du sport, vous le savez, qui vous accompagnent tout l'été, tous les week-ends, même pendant vos vacances, à la plage, en forêt, où vous voulez, dans votre canapé. N'hésitez pas en tout cas à retrouver le podcast des GG et notre débat d'ailleurs de la première heure sur le Tour de France et la Visma autour de Vingegaard. Dans une heure, on va s'intéresser à l'héritage des Jeux Olympiques avec les dernières annonces gouvernementales qui visent encore à réduire les budgets. Est-ce que cet héritage est déjà enterré? 32-16 pour rejoindre dès maintenant le standard des GG. Et dans 30 minutes, la punchline GG sera signée ce matin. Lamine Yamal, la jeune star du Barça qui entend profiter de la vie. Est-ce que c'est incompatible avec le haut niveau? Mais d'abord, c'est le moment, c'est l'instant, l'heure du bras de fer GG.
MC, le bras de fer GG.
Elle se fait tirer les cheveux.
Elle se fait tirer les cheveux.
De réparation, c'est parti pour Grace Guillaume, du pied droit, et c'est dedans. Et le but, l'ouverture du score de Grace Guillaume. C'est Clara Boule qui le frappe au premier poteau, c'est tendu. Et l'égalisation, la tête au premier poteau. Oh, attention, il y a Hoffmann là qui fait encore des misères. Elle s'écroule dans la surface, l'attaquante allemande. Pénalty, faute de Selma Bacha. Petite course d'élan pour Nusken. C'est parti. Et l'arrêt de Pauline Perromagna. Le centre de Karchaoui, la tête. Attention. Oh, la claquette. La claquette de Berger qui sauve son camp. La tête, ça a failli être un CSC de la défenseur allemande, Berger qui a dû se détendre de tout son long. C'est parti, il faut marquer absolument. L'arrêt sur sa gauche d'Anne-Catherine Berger qui envoie et qui renvoie à la maison l'équipe de France qui encore une fois est éliminée en quart de finale.
Non, tu peux nous refaire ça, Simon Dutin?
Non.
Les Bleus qui n'ont pas réussi, vous l'avez entendu, à franchir ce fameux plafond de verre stoppé en quart de finale à l'issue d'un scénario fou mais cruel et de cette fameuse séance de tir au but désormais. Pourtant, les Françaises ont évolué, vous l'avez entendu, en supériorité numérique pendant près de 100 minutes. Alors, est-ce une faute professionnelle? Dans la team faute professionnelle, Sarah Pitkovski, Simon Dutin et Olivier Giraud. Dans la team pas faute professionnelle, seule face à la meute, mais elle adore ça, Alison Pinot, c'est là où on reconnaît les champions. Avant de vous entendre, on va accueillir Anthony Reich qui a commenté la rencontre hier soir sur RMC. Salut Anthony.
Salut François, salut les grandes gueules, salut, bonjour Anthony. À tous.
Les Bleus qui avaient du mal à expliquer leur élimination hier soir.
Oui, et même en supériorité numérique, dès la 13e minute de jeu, les joueuses de l'équipe de France n'ont jamais réussi à être au niveau de ce quart de finale. Entre imprécision technique et nervosité, Laurent Bonadei, le sélectionneur.
On a certainement fait preuve un peu de précipitation parfois, on a fait pas mal de fautes qu'on aurait pu éviter et il faut reconnaître que l'équipe d'Allemagne a été héroïque aussi. Elles nous ont quand même fait mal sur beaucoup de duels.
Les leaders comme Delphine Cascarino, Grace Guillaume ou Selma Bacha n'ont pas réussi à faire basculer la rencontre. Troisième élimination consécutive en 3 ans dans une grande compétition en quart de finale. Le plafond de verre est toujours présent, Sakina Karchaoui veut pourtant croire à un avenir plus radieux pour les Bleus.
On y croyait tellement et on voulait tellement donner. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, il faut garder tout ce qu'on a bien fait, tout ce qui nous a réunis et unis dans ces moments-là aussi. On y croit avec tout ce qu'on a construit dans le groupe, mais un jour ça passera.
La France quitte une grande compétition internationale pour la 9e fois en 12 participations à ce stade, plus que toute autre nation dans l'histoire.
Merci beaucoup Anthony, à bientôt sur RMC. Le point sur le sondage, pour l'instant, la team faute professionnelle largement en tête, 81% sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous pouvez encore changer la tendance en nous écoutant, évidemment, et on fera le point à la fin. 19% pour le non. Donc c'est toi, Alison, qui va essayer de convaincre ceux qui nous écoutent pour dire voilà, il faut peut-être être un peu indulgent. C'est ça que tu veux nous dire ce matin? Avec le micro.
Oui, je pense que faute professionnelle, c'est quand même un gros mot. On a eu une équipe qui nous a fait vraiment, nous avons dû du rêve sur cette phase de poule et elles ont marqué quand même 11 buts. C'est pas rien. On avait beaucoup d'espoir pour ce match hier soir en se disant, bah, peut-être qu'elles vont beaucoup marquer. Et ça a été le cas si on n'enlève pas ces 2 buts refusés, malheureusement. Il y a beaucoup de frustration. Ça a été un crève-cœur. Ça a été irrespirable ce match, vraiment, de bout en bout. Je pense que le vrai regret qu'on a pour cette équipe, c'est ce but finalement allemand qui arrive très très rapidement dans le match après ce penalty de l'équipe de France. Une jeune équipe qui a donné une nouvelle image, une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Et oui, c'est vrai, elles ont évolué à une de plus pendant plus de 100 minutes. Mais une fois que l'Allemagne a marqué, a fait quand même barrière derrière, et ça a été très difficile. Je suis aussi d'accord avec vous qu'il y a eu du déchet. On a été un peu emballé sur cette première mi-temps, et puis cette deuxième mi-temps, plus on avançait dans les minutes et plus c'était difficile. On sentait qu'il y avait de la nervosité, etc., et qu'on trouvait pas les solutions. Donc c'est dommage. Par contre, faute professionnelle, c'est vraiment trop fort pour moi comme mot, parce que c'est un nouveau groupe avec une jeune équipe. Je sais, je vous vois autour de la table déjà me dire oui, mais c'est du comme d'hab. À chaque fois qu'on les attend au tournant, elles répondent jamais présent. Mais une jeune équipe qui a beaucoup d'avenir selon moi. Soyons indulgents, soyons patients aussi.
C'est ce qu'on entendait d'ailleurs dans ce que nous disait Anthony Reich. C'est ce que demandent aussi les filles à l'issue de cette rencontre. Un petit peu d'indulgence et surtout de la patience pour progresser. Sarah ?
Bah, de la patience, on en a. De la patience pour preuve. On le disait, elles ont jusqu'à maintenant ce plafond de verre des quarts de finale. Elles l'ont pas explosé.
Alors, elles avaient fait une demi à l'Euro.
Très pragmatiquement parlant, 100 minutes à 10 contre 11, je me l'explique pas, quoi.
Mais c'est pas la première fois qu'une équipe.
Qu'une équipe, 100 minutes, tu mets pas un but. Et mais c'est surtout.
Il y a un arrêt extraordinaire aussi de Berger.
Oui, et puis Berger a été extraordinaire. Désolé, hier soir, avant le match, on disait.
Mais quand tu joues 100 minutes, t'as deux phases de prolongation, ou dans les deux phases de prolongation, 92% du temps, les Françaises sont le camp des Allemandes et il ne se passe rien. Je me pose la question. Alors il y a peut-être plusieurs questions. La fatigue faisant que c'est peut-être plus difficile de tenter des choses quand t'es au bout de 100 minutes. Mais je n'arrive pas à m'expliquer comment les Françaises aujourd'hui ne se sortent pas de cette équipe d'Allemagne. Mais elles devaient être à bout de souffle, les Allemandes.
Bah non, je pense pas.
Elles ont marqué,
elles se sont repliées, puis après elles ont attendu juste des contre-attaques et des possibilités. On a campé. Mais on n'a pas réussi à créer du mouvement.
On a
bien vu, de toute manière, c'est ce que les Allemandes cherchaient. C'est qu'elles voulaient aller en prolongation et qu'elles voulaient aller au bout du temps, justement, parce que je pense qu'elles se pensaient supérieures sur la phase de pénalité.
C'était le seul moyen de s'en sortir.
Bah oui, mais justement, elles ont marqué un but assez tôt dans le match qui leur ont permis justement d'avoir ce schéma de jeu. Parce que si, je pense, la France ne prend pas le but assez tôt dans le match. Si les Allemandes veulent gagner, au bout d'un moment, elles sont obligées de se découvrir.
Ouais,
là, voilà. Donc du coup, ça change aussi.
Alors, c'est pas pour aller dans le sens d'Alison, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on en a vu déjà des matchs comme ça où l'équipe qui défend gagne au tir au but et ça arrive dans le monde
11.
Du foot.
Oui. Simon. J'en ai pas beaucoup en mémoire, moi, 10 contre 11.
Elle réclame de la patience. Alors la patience, c'est le premier Euro féminin de football. Il a eu lieu en 1984. La première Coupe du Monde de la FIFA, c'était en 91. Je pense que la patience commence à atteindre ses limites. On nous vend suffisamment du rêve autour de ces différentes générations de l'équipe de France. Faute professionnelle, pourquoi ? Parce que la déception, elle est à la hauteur de l'espoir qu'elles ont suscité par ce brillant premier tour. Elles battent les tenantes du titre anglaises. Elles battent les championnes d'Europe 2018, les Pays-Bas au troisième match. 3 victoires, Alison a rappelé. 11 buts inscrits par 9 joueuses différentes. Une Delphine Cascarino qui apparaissait comme l'une des meilleures joueuses du monde actuellement. Et surtout, des schémas de jeu, des circuits de jeu, des combinaisons, un foot séduisant, un foot offensif. On se disait, bon voilà, cette fois-ci, les Allemandes qu'on n'a jamais battues dans un grand tournoi, mais sur qui on restait sur la première victoire de notre histoire en Ligue des Nations, elles sont prenables, elles aussi, elles sont dans un au creux de la vague, renouvellement de génération. Hier, on n'a rien vu. J'avais la chance d'être en compagnie de Laure Le Payeur pour suivre cette rencontre en direct sur RMC. On n'a absolument rien vu. Le premier but, c'est un miracle parce que, encore une fois, c'est une Allemande qui a les fils qui se touchent, qui attrape les cheveux de Grieg Mbok. Penalty, le penalty, il est très mal tiré. On a de la chance quand même que la gardienne allemande qui touche le ballon laisse passer le ballon.
Qu'est-ce que Laure te disait sur l'intensité, des Françaises comparée à l'intensité des Allemandes
elle était un peu atterrée, Laure, parce qu'elle n'a pas reconnu, elle non plus, cette équipe de France, qu'elle avait, elle aussi, encensée. Ouais. après le premier tour. Je vais vous citer le premier mot de Laure Lepailleur dans l'after, le débrief de la rencontre. Je cite, deux points, ouvrez les guillemets, c'est scandaleux. Voilà, je vous invite à réécouter le podcast.
En fait, c'est scandaleux. Comment expliquer qu'elles font des matchs de poule où il y a une intensité, techniquement on voit des choses, et qu'en quart de finale, cette paralysie, que ce soit sur le plan technique ou même de l'intensité, donc il y a un problème
mental.
Il y a une chape de plomb, il y a un problème mental.
Il y a un problème, alors après on a suffisamment, encore une fois, encensé les choix de Laurent Bonadei au premier tour, pour avoir le droit de les remettre un petit peu en question.
On rappelle les choix, notamment de se passer d'une Wendy Renard, par exemple.
Alors, il y avait Wendy Renard, le Sommer, Dali, qui sont restés à la maison. Aussi. Et jusque-là, ce pari était gagnant. Oui. Mais je te parle par rapport à ce qui a marché au premier tour.
Ah oui,
t'as une ligne d'attaque qui terrorise l'Europe entière. Et va savoir pourquoi, alors que tout le monde est apte à démarrer. Au lieu de garder ton trio d'attaque avec Baltimore à gauche, Cascarino à droite et Katoto dans l'axe,
je sais pas si ça aurait fonctionné plus.
On sait pas.
Je pense que oui, quand même.
Non, mais je veux dire, 10 contre 11. On sait à quel point dans une compétition.
C'est juste une question de choix, là.
Non, mais François, on sait à quel point dans une compétition, de sélection, notamment, une fois que t'as trouvé la recette qui marche, sauf pépin physique, tu conserves cette ossature au moins pour démarrer les matchs. Là, hier, Bonadei choisit de mettre Baltimore sur le banc, de déplacer Cascarino de la droite sur la gauche, de mettre Diani à droite et Katoto dans l'axe. Au bout de 10 minutes, ça ne marche pas. On a Diani qui repasse à gauche
et Cascarino à droite.
Bon, au-delà de ça, on a vu beaucoup d'approximations techniques, un gros déchet dans l'exécution, dans le projet, on n'a rien vu.
Ça bougeait moins aussi lors des premiers matchs.
Et crédit aux Allemands qui ont réalisé un match exceptionnel parce que les Allemands
de mouvement.
Il y a cette exclusion sur le penalty. Ouais. Il y a une autre défenseur qui sort blessé au bout d'un quart d'heure. On se dit on va leur rouler dessus. L'égalisation, elle est scandaleuse. Je suis désolé. On a une Allemande qu'on laisse s'échapper. Personne ne la suit au premier poteau. Tête décroisée. Mmh. Bon, c'est bien fait, mais voilà. Et à partir de là, on n'a plus rien vu. Donc oui, c'est une faute professionnelle parce que, encore une fois, si hier tu n'as que ça à proposer alors que ça commence à compter, je ne sais pas quand est-ce que tu vas en effet briser ce plafond de verre. C'est un peu navrant, voilà. On a l'impression qu'on a fait trois pas en arrière alors qu'on avait l'impression d'en avoir fait quelques-uns en avant.
Olivier, faute professionnelle aussi pour toi?
Oui, faute professionnelle, mais c'est assez large quand on dit faute professionnelle. On englobe tout le monde. Moi, la faute professionnelle, pour moi, ce qui est dur dans le sport de haut niveau, c'est qu'à un moment, faut pointer les manques. Et le manque, c'est clairement le coach dans une situation comme celle-là. Juste une question d'attitude. Regardez l'attitude des deux coachs sur le banc pendant le match. C'est incroyable. Ça veut dire, qu'est-ce que tu transmets à ces filles? Surtout quand tu as une équipe jeune, remaniée, il faut là un coach qui tienne son équipe, qui est...
Qu'est-ce que tu aurais voulu, que Laurent Bonadei soit comme un fou sur le banc de touche?
Alors, regarde bien, tu prends juste une image, tu prends l'image à la fin des 120 minutes.
Ah, je suis d'accord.
L'autre, il est en dépression, le coach français, et le coach allemand, il est là, il va faire ses joueuses, il les bouge, elles ont joué à 10. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois insuffler quelque chose. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est ses premiers mots à la fin. Ses premiers mots, il est sur la conséquence, il n'est pas sur la cause. Les premiers mots, il dit oui, la petite qui a tiré, c'était sa première. Mais non, explique-nous ce que tu as mis tactiquement en place. Et en fait, il a fauté, il a manqué d'ambition sur ce match. C'est-à-dire que tu l'expliquais très bien, Simon. Là, il fallait être ambitieux, offensif. Et lui, il a été rétrograde. Il est revenu en arrière en attendant de protéger ce petit but. Et ça a complètement explosé. Et il a perdu le fil de ce match. C'est-à-dire que tactiquement, normalement, les Françaises, à 10 contre 11, elles auraient dû balader ces Allemandes dans la profondeur, dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a vu des Françaises qui prenaient le ballon, traversaient le terrain toutes seules. On aurait dit vraiment une équipe complètement perdue, et tactiquement le coach n'a rien apporté. Donc quand on se pose
même
la question,
même ces changements n'ont rien apporté parce que les entrantes n'ont pas montré grand chose.
Honnêtement, dans tout son débrief, j'attendais à un moment, la première chose, c'est une remise en cause aussi personnelle. Lui, il nous a parlé que des joueuses, pas de lui, pas de ce qu'il a mis en place tactiquement. C'est-à-dire que normalement, quand tu commences un match, et surtout un quart de finale qui est un match très particulier, parce qu'en termes d'émotion, tu parlais des poules, ça n'a rien à voir avec le match couperet où ta tête peut sauter à tout moment. Et surtout, quelque chose qui est très important, on parlait de la médiatisation, il faut aussi voir comment ces filles vivent le quart de finale, l'avant quart de finale, lorsque tu vas passer sur TF1. C'est un truc que personne ne fait attention. Et ça aussi, il faut protéger les joueuses et préparer les joueuses à jouer un match où tout le monde va les regarder, qui va être le match le plus important pour l'avenir du foot français. Féminin.
Ouais, en fait, on aurait dû continuer la Coupe du Monde des clubs un peu plus longtemps, comme ça.
Mais tu vas rigoler. Non, mais Olivier, tu vas rigoler. Regarde la conséquence de ça.
Ouais, ouais.
La conséquence, elle est très, très grave. Parce que si tu veux, à un moment, quand t'es un sport émergent, et le foot féminin est un sport émergent qui n'attend qu'une seule chose, c'est de la médiatisation pour donner envie à des gamines d'aller jouer au foot. Et ben, ces 10 dernières années, tu sais ce qu'on a perdu avec cette équipe de France qui n'a pas trouvé son leader pour accompagner ces jeunes femmes. Eh ben, on a perdu face à l'Espagne, face à l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on avait l'un des meilleurs championnats français. Et aujourd'hui, il y a un désintérêt pour ça se décline.
Juste, je voulais vous faire écouter. On va poursuivre le débat, évidemment, avec vous aussi au 32-16. Mais une réaction à la fin de la rencontre, celle de Selma Bacha, qui a été donc, titularisée hier et qui a joué toute la rencontre. Selma Bacha, interrogée par Anthony Reich. Écoutez.
Manque de chance, elles ont rien proposé en face. Elles ont défendu, elles ont été là, elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z. Donc maintenant elles sont qualifiées et je suis désolée de vous dire ça, mais c'est même pas mérité. Maintenant après, je suis une mauvaise perdante, c'est normal, et j'ai à cœur d'emmener mon pays le plus loin possible. Bonne chance à elles en tout cas, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Bon, là, il faut peut-être recadrer les choses.
C'était à chaud, parce que même dans ses propos, elles n'ont rien montré, mais elles ont été agressives. Donc déjà, c'est pas tout à fait cohérent.
C'est pas mérité.
Elle s'en rend compte, elle tire le frein à main à la fin en disant oui, c'est vrai que je suis mauvaise perdante. Elle s'en rend compte, je pense qu'elle se dit ça va passer difficilement. Selma Bacha, dont on loue souvent la qualité technique, elle a tiré 5, 6, 7 coup de pied arrêté, coup franc au corner, elle a pas mis un ballon dangereux, elle a pas réussi à lever un ballon au-delà de
la faiblesse technique
de son activité, et elle est pas la seule coupable sur le terrain. Mais de là à dire que les Allemandes n'ont rien proposé, encore une fois, elles ont joué à 10, quasiment toute la rencontre. Et avec évidemment un plan tactique qu'il a fallu réadapter.
Mais ça va dans le sens de ce que disait Olivier, c'est qu'il faut faire aussi l'analyse de cette défaite pour avancer. Et l'analyse là, telle qu'on nous la présente, en tout cas telle que les Français nous la présentent,
s'il n'y a que ça à retenir, ça,
c'est pas possible. On nous parle de l'avenir, on nous parle de on a été meilleur que les Allemandes. Il faut faire une vraie analyse pour comprendre pourquoi à chaque fois c'est la même chose avec cette équipe de France.
En fait, le coach doit être totalement, c'est pour ça qu'on dit coach pas entraîneur, c'est tu leur apprends pas à faire des passes, mais il doit être complètement en décalage avec l'émotion que peuvent générer les joueuses. Et en fait, lui, il est parti avec les joueuses, il s'est enfermé. Ça veut dire que
c'était un premier grand match pour lui, les deux derrière, d'ailleurs c'était
première quart de finale en grande compétition pour le coach allemand.
Normalement tu dois étudier tous les cas possibles. On pourrait discuter de son choix de mettre la petite jeune à tirer le pénalty à ce moment-là, parce que le pénalty, c'est quelque chose de très particulier.
On n'a pas vu leur
Tu sais quoi, t'as
déjà vu de l'huile avec de l'eau? Et ben, le moment où vous tirez des pénaltys, lorsque c'est très très important, en général, là, tu les vois, les leaders. Parce que, en fait, ceux qui ont envie d'y aller,
on parlera de cette séance de tir au but, ça s'écarte.
Et le fait qu'une petite se retrouve à tirer le sixième ou le septième pénalty.
Deux ou trois, elles sont allées, elles n'ont pas eu peur.
Bacha n'a pas tiré, alors elle était peut-être fatiguée.
Clara Matteo n'a pas tiré.
C'est une question, c'était la meilleure joueuse de Ligue 1 cette année.
Il était où le coach?
On en reparlera de cette séance de tir au but.
Et je vais envie de rebondir sur ce qu'a dit Olivier, c'est que je pense qu'on s'est fait manger psychologiquement par les Allemands. C'est-à-dire que t'as parlé
et
du coach. Aussi, je suis d'accord sur ce point-là. Mais tu regardes le coach. Au bout des 120 minutes, je suis totalement d'accord. Ça m'a choqué. Il y a eu un zoom sur les deux équipes, sur les deux coachs. Il y en a un. Tu vois même les filles, les têtes sont baissées et les Allemandes, c'est là, c'est hier. Ça harangue. Ça harangue comme de folie, même les touches à la fin. Ça haranguait le public. Tu sentais qu'il y avait une détermination.
Elles sont en survie depuis 100 minutes. Elles sont en survie quand tu joues à 10 contre 11. Je veux dire, si tu vas pas chercher
au bout d'un
enfin, je veux dire, peut-être que dans leur tête, 10 contre 11, c'était déjà irréalisable de se sortir de ce quart de finale. Donc, elles sont animées d'une question de survie, et on sait que la survie dans le sport permet de décupler les choses. Mais je lisais des articles, je remontais les articles, on nous disait que les Françaises, il y avait une préparation psychologique. Et c'est là, tu dis, mais la préparation psychologique, il y a l'événement, comme tu dis, l'événement qui va être médiatisé sur la plus grande chaîne de France.
5 millions hier, hein, non, de mais téléspectateurs.
Un quart de finale où jusqu'à maintenant, ça a toujours bloqué. Et en fait, on n'a pas vu d'expérience, on n'a rien vu d'expérience de ce de quart de finale, en fait.
On a l'impression de revivre ce qui s'est passé, évidemment,
oui,
avec les
c'est un éternel recommencement,
France,
et c'est ça qui est dangereux.
Malgré les changements, et malgré ce qu'on nous a vendu aussi,
changement du staff
en nous
et
disant,
de joueuses. Hein.
Voilà, il y a un nouveau staff, il y a un nouvel élan dans cette équipe, on a mis les cadres Wendy Renard, Eugénie Le Sommer au frigo pour cette compétition, et on a un groupe uni et qui fonctionne. Et
ben, malgré ça veut dire quoi on a c'est des unis,
non mais c'était ce qu'on nous a un peu vendu, c'est ce qu'on voyait au départ de la compétition.
Ça n'existe pas, les groupes unis.
En fait, tu sais,
quand tu commences toutes les préparations, la question c'est comment va le groupe. Le groupe vit bien. Tant que le groupe n'a pas gagné, il a rien d'uni du tout.
Ouais. Laurent est avec nous au 32-16 pour continuer ce débat. Salut Laurent.
Salut l'équipe.
Salut Laurent.
Alors, tu as regardé le match, j'imagine, la rencontre. Sur notre débat, pour toi, c'est une faute professionnelle ou non?
C'est une faute nationale, une faute professionnelle, et c'est un désastre. C'est un désastre, je vais vous expliquer pourquoi. À partir du Mondial 2011 et cette victoire en quart de finale face aux Allemandes, il y a 14 ans, on crée un élan. Un élan qui permet à tous les éducateurs, toutes les éducatrices, à tout le monde du football de dire « Regardez, le football féminin est là, c'est un football de qualité qui est magnifique à regarder. » En plus, ça nous permettait quand même de nous battre face à un vieux monde très mec-mec. Hein. Donc, heureusement que le football féminin émergeait. Et depuis, on a de cesse de créer des désillusions pour nos supporters et nos supportrices. On a de cesse, alors que ce soit les différentes défaites au tir au but, que ce soit les JO, la défaite face au Brésil. En fait, on a actuellement un énorme problème. C'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire de foot. Il y a de moins en moins d'audience sur le foot féminin. Il y a de moins en moins d'investisseurs sur le football féminin. Pourquoi? Parce que sur les dernières années, et sur les 3, 4, 5, 6 dernières années, la locomotive qui devrait tirer tout le monde vers le haut, qui est notre équipe nationale, ne cesse de décevoir dans des proportions hallucinantes les supporters et les supportrices de l'équipe de France. Et donc la défaite d'hier soir, moi j'ai plein d'amis qui ont regardé tous les matchs de l'équipe de France avec moi depuis 10 ans, j'ai plein d'amis qui ne regardaient pas le match hier soir. Tout comme la plupart de ses amis, en partie, n'avaient pas regardé le quart des finales face au Brésil à Nantes en 2024 au JO. Pourquoi? Parce que ses amis, hommes comme femmes, me disaient « De toute façon, il y en a marre, on ne gagne jamais rien, elles ont pas de mental, ça fait 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans que c'est la même chose ». Et donc là, ces amis-là, hier soir, ils ont encore eu raison. J'ai reçu des textos hier soir qui me disaient « Ah bah, tu vois, ton équipe de France, c'est la même histoire. C'est un running gag qui va avoir lieu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. » Et au-delà de tout ça, au-delà du constat, au-delà de se dire qu'on n'a pas de leader, au-delà de ce que vous dites, et vous avez raison, sur le fond comme sur la forme, moi, je suis hyper déçu parce que c'est des générations entières de jeunes footballeuses, de jeunes femmes, qui n'auront pas envie de se tourner vers le foot féminin à cause de l'irresponsabilité et à cause du manque de professionnalisme d'une génération entière de coachs et de joueuses de l'équipe de France de football féminin.
Laurent, effectivement, il a raison aussi de penser Laurent, à ça. C'était un moment, là, ce quart de finale, où peut-être qu'on pouvait faire une sorte de bascule pour le foot féminin en France. T'es passé à côté.
T'es en prime time. Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu sont aux commentaires de la rencontre. Dans un tournoi qui bat des records de popularité, joues devant 35 000 personnes dans un pays qui s'enflamme vraiment pour ce tournoi. Tu n'as aucune compétition en face. La Coupe du Monde des clubs est terminée. Les calendriers se sont ajustés pour qu'évidemment il n'y ait plus de compétition de sélection masculine en face de toi. Il y a ce premier tour séduisant. Tu as l'attention des médias. Tu commences à intéresser un public qui, Laurent l'a rappelé, fait parfois preuve d'un petit peu de cynisme envers tes performances, même quand tu gagnes, en te disant c'est la petite musique depuis des années. Ah mais oui, les filles, c'est moins spectaculaire. J'aime le foot, mais j'aime pas le foot féminin. Tu as une occasion unique sous les yeux de la ministre des Sports, qu'on a eu l'occasion d'accueillir dans l'avant-match, et qui confirme, évidemment, on lui a demandé, c'est important, ça passe par là, l'engouement, la médiatisation du foot féminin. Elle a dit, c'est fondamental. Voilà, une bonne performance ce soir. Voilà, t'as l'occasion, t'es face au but. Il n'y a plus de gardien, tu la mets à côté. Il ne faudra pas se plaindre à l'avenir, malheureusement, qu'on nous dise, bah écoutez, comme les copains de Laurent, non, moi c'est terminé, on me vend du rêve à chaque fois. J'y crois pas, on n'ira pas au-dessus des quarts de finale. On rappelle la stat, hein, François, sur les 12 derniers, ça fait 12, hein, sur les 12 derniers grands tournois internationaux, c'est 3 qualifications en demi-finale et 9 éliminations en quart de finale.
Ah, voilà, quand il y a la petite musique, t'as compris, Simon.
Oui, oui, je la connais, oui, c'est pour ça, t'as vu, j'ai accéléré.
Merci Laurent, en tout cas, d'être passé sur RMC. Merci beaucoup.
Très bon.
Très bon, excellent Laurent, effectivement, qui est venu nous voir ce matin pour parler d'équipe de France, dont on reparlera à 11h45 parce qu'on va s'intéresser au tir au but, là. Est-ce que c'est un mal français, hein? C'est pas la première fois que les Françaises, d'ailleurs, se ratent sur les tirs au but. On va pouvoir refaire cette séance complètement folle. Mais dans un instant, ça sera la punchline GG. Elle est signée Lamine Yamal, l'attaquant du Barça, après sa soirée très commentée. Est-ce que profiter de la vie, c'est compatible avec le haut niveau? Et j'ai hâte d'entendre Simon Dutin là-dessus. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet,
Alison Pinot, Sarah Pitkovski, Olivier Giraud, Simon Dutin, ce dimanche matin, 10h34, en direct, les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Dans un instant, ça sera les grandes gueules contre-attaque. Et pour l'instant, Sarah Pitkovski peut faire un back-to-back, gagner 2 contre-attaques d'affilée. C'est la championne là qui parle, elle veut gagner, elle, contrairement à Simon Dutin, qui est quand même dans sa roue, hein, 26% avec son débat sur Galtier. Et puis derrière, on retrouve Olivier Giraud, 23%, et Alison Pinot, 20%, pour parler de Gabi Williams. Voilà, donc si vous voulez qu'on parle de Gabi Williams,
Fred Veil, s'il essaye chaque fois qu'il est là de placer une contre-attaque passée, et c'est douloureux.
Ah, non, mais c'est dur pour cette joueuse magnifique.
Vous pouvez voter, vous avez encore
Votez pour Gabi Williams.
D'abord la punchline GG, c'est parti.
RMC, la punchline GG.
En fin de compte, je travaille pour le Barça, je joue pour le Barça, et quand je suis loin de la cité d'entraînement, je profite de la vie et c'est tout.
La punchline signée Lamine Yamal, vous l'avez entendu, la star du Barça. Il a eu 18 ans dimanche dernier. Et pour l'occasion, il a fait une très grande fête qui a fait scandale d'ailleurs, puisqu'il avait notamment fait appel à des nains pour animer cette soirée d'anniversaire. Il a été la cible aussi d'associations, hein, des personnes atteintes de nanisme, justement suite à ça. Et il a répondu, pour se défendre, sans s'excuser réellement, qu'il profitait de la vie. C'est tout. Et ça nous a inspiré une question, les GG. Profiter de la vie, est-ce compatible avec le haut niveau? Oui ou non, Olivier Giraud?
Oui.
Sarah Pitkovski?
Je vais aussi défendre le oui.
Simon Dutin?
Tu te doutes bien que je vais défendre le oui.
Alison Pinot?
Oui.
Ah bon, voilà. Bon, merci à tous. Allez. Non, on peut en parler un petit peu quand même de ce que dit Lamine Yamal. Moi, ce qui m'a intéressé dans sa déclaration, c'est qu'on a quand même plein de contre-exemples de grandes stars et internationales qui ont mis leur vie un peu entre parenthèses, Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic et d'autres, sans doute, j'en oublie, pour performer. Et on a tendance à dire que si on profite un peu trop de la vie, eh bien, ça va avoir évidemment une influence sur ses performances, Olivier. Toi, t'as profité de la vie, c'est pour ça que t'as répondu oui, c'est ça, pendant ta carrière?
En fait, ouais, on peut partir de ça, de ce qu'était le sport professionnel à une certaine époque, hein, à laquelle j'ai fait partie. C'est-à-dire qu'on était à la fois des étudiants, on profitait de la vie, à la fois on faisait du sport professionnel. Et puis finalement, tu t'es aperçu que certains en faisaient déjà beaucoup plus, et que ce beaucoup plus, les aidait à gagner. Les Allemands faisaient beaucoup plus, les Espagnols faisaient beaucoup plus, donc on s'y est mis aussi. On s'y est mis sans s'y mettre vraiment, hein, un petit peu plus professionnel, mais en ayant quand même des moments pour nous. Et puis petit à petit, le sport s'est encore développé parce qu'il s'est encore plus médiatisé et que certains sportifs sont allés à l'extrême. Et Djoko était l'un des premiers à manger des graines, ouais, et à faire très, je dis ça en rigolant, mais à faire très attention à la fois sur le plan psychologique, à la fois sur le plan diététique, sur tous les aspects qui font que tu peux performer et tu passes pas à côté de tes matchs. Et que y a une nouvelle génération qui est arrivée après ça, qui a vu ces grands champions se priver de tout, les Djokovic, tu l'as dit, des Nadal, Cristiano Ronaldo.
Et là,
t'as une nouvelle génération qui arrive, la nouvelle génération, celle qui a 18 ans, qui a vu ces autres se priver de tout. Et c'est comme les générations dans une famille. Et ceux-là, ils ont envie d'autre chose. Mais par contre, la question que tu peux te poser, c'est que grâce à ces GOAT qui sont avant, tu as pu avoir des salaires extraordinaire. Aujourd'hui, c'est vrai que Ronaldo, Ronaldinho, beaucoup de joueurs jouaient Romario en faisant à la fois la fête,
Neymar,
et à la fois Neymar plus récemment. C'est le contre-coup de ça, Est-ce que ton salaire, bah, c'est le même en voulant profiter de tout?
Ils auraient pu avoir une autre carrière, c'est ça aussi qu'on veut.
Exactement. Les joueurs que tu cites,
ils veulent vivre.
De la vie. En fait, il faut savoir ce qu'on dit profiter de la vie.
Le Yamal a 18 ans, il fait une grosse soirée d'anniversaire.
Mais ça ne veut pas dire des excès, en fait. Profiter de la vie, c'est qu'il y a des.
Ouais, moi c'est comme ça que je l'avais entendu.
Simon, il profite de la vie en faisant des excès. C'est ça qu'il veut dire.
Non, faut parler à l'imparfait, François.
Non, mais moi je rejoins Sarah, je suis aussi d'accord. Hein. Faut mettre des mots sur ce que ça veut dire profiter de la vie.
Profiter de la vie, c'est quand t'es sportif de haut niveau, c'est à certaines conditions.
C'est faire passer tes loisirs avant ton hygiène de ton éthique de travail.
Ça peut être à des moments où tu t'octroies une
profiter
forme
de la vie, c'est
de
manger ce que tu veux à un moment donné. Profiter de la vie, c'est sortir quand t'as envie jusqu'à une heure.
Quand t'es sportif de haut niveau,
profiter de la vie, c'est pas tiens, je vais prendre un bouquin et je profite de la vie.
Pour un sportif de haut niveau, ça
ne
va pas être
le
même.
Parce que toi, t'aimes pas la lecture.
Que pour un étudiant, on s'entend bien. C'est pas compatible. Effectivement, aujourd'hui, il y a aussi une donnée qu'on a vue et qu'on a entendue ces dernières années, c'est les fameux burn-out. Il y a, allez, 5 ans, on n'entendait jamais ce mot-là dans la bouche d'un sportif. C'était même pas envisageable. Mmh. C'est le plus fort, il traverse tout. Et donc, peut-être qu'effectivement, c'est le fait de profiter de la vie ou en tout cas de s'octroyer une parenthèse, une bulle d'oxygène, qui te permet aussi de durer sur la longueur. Alors, t'as toujours des exceptions. Si tu me sors Cristiano Ronaldo, oui, c'est une exception.
Ah oui, mais c'est un des meilleurs.
Mais
tu voudrais de sa vie.
Non, c'est moi, j'ai pas.
Ce que je veux dire, c'est propre à chacun, quoi.
Ouais. Non, mais Alcaraz, après Roland Garros, il a bien dit, je suis allé à Ibiza, j'avais besoin de décompresser avec mes copains.
Ouais, ça n'empêche pas de Wimbledon.
Bon, ça va.
Lui n'a pas l'air de profiter.
Il n'a pas perdu Wimbledon parce qu'il a été faire une sortie avec ses potes à Ibiza. Non, il faut être capable aujourd'hui de ménager la chèvre et le chou parce qu'effectivement, la pression des sportifs aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante parce que chaque chose que tu fais, elle est jugée, elle est médiatisée, elle est photographiée. Donc je pense que cette bulle d'oxygène, elle est encore plus importante et même peut-être indispensable.
Moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même un petit peu contingent à certaines formes d'excentricité ou de génie, en tout cas une dimension psychologique qui va avec ta façon d'appréhender le sport. Parce que là où ce que Olivier qualifie de robot, de psycho, un Cristiano Ronaldo, un Novak Djokovic, t'as des contre-exemples. Alors avec cette réserve, cette petite astérisque qui reste à côté de ces champions qui souvent en plus l'assument, le revendiquent, what if, comme disent les Anglais, serait-il passé, qu'aurait-il pu produire sans justement ces excès? Parce que Olivier, tu me fais plaisir, t'as cité Romario, moi c'est mon idole de jeunesse, pour les plus jeunes de nos auditrices, auditeurs.
Aussi, hein.
Romario, c'était un avant-centre fantasque qui a joué au FC Barcelone, et il y a cette anecdote devenue légendaire, il aimait s'amuser, il aimait faire la fête, c'était un dragueur, il était à Barcelone et en février il y avait le carnaval de Rio, il va voir Johan Cruyff avant une rencontre, il dit hey, coach, je peux Tu me laisses 3 jours pour aller au carnaval. Ils avaient un match contre l'Atlético de Madrid à jouer. Et Cruyff lui dit, bon, écoute, on verra, on en reparle si tu marques contre l'Atlético de Madrid. En première période, ils rentrent au vestiaire. Il y a 2-0 pour le Barça. Doublé de Romario. Il dit, coach, je peux y aller là. J'ai mon avion dans 2 heures. Il a dit, allez, barre-toi. Et il l'a envoyé au carnaval parce que il y a aussi cette dimension psychologique. Si tu veux garder ton champion à température concerné, il faut lui offrir cet espace un petit peu de liberté. Ronaldinho, c'était pareil. Il arrivait, il sortait directement de boîte, il allait à l'entraînement, il rinçait tout le monde à l'entraînement. En tennis, t'as des Nastas, des Safin qui revendiquaient. C'est pour ça que je te dis qu'il y a la petite astérisque avec le what if. Ouais. Est-ce que si Safin avait eu l'éthique de travail d'un Djokovic, est-ce qu'il n'aurait pas 5 ou 6 grands chelems de plus à son palmarès? Mais je pense que pour certains champions, dans une certaine qui ont ce caractère-là, je pense qu'ils ne réussissent à s'épanouir et à se consacrer au haut niveau que s'ils ont cette petite espace de liberté.
Alison Pinault, parce que ça m'intéresse. Ouais. Toi, tu as l'image, mais on ne te connaît pas encore suffisamment dans les GG. Mais tu as l'image quand même de quelqu'un de sérieux, tout pour aller gagner, justement, quitte peut-être à ne pas profiter tout le temps de la vie. Est-ce que toi, ton expérience...
j'ai pas profité pendant très très longtemps. C'est plutôt sur le tard que j'ai commencé un peu à le faire, mais avec parcimonie, j'ai envie de dire. Je comprends entre guillemets que ça pose une certaine interrogation. Pourquoi ? Parce que moi, j'estime qu'il a 18 ans. Et les gens oublient aussi qu'il a 18 ans. Mais pourquoi on en parle et que ça soulève des interrogations ? C'est parce qu'il est passé de 5 à 15 millions de salaire et que les gens ils se disent, mais jamais de la vie, en fait, le mec, il va être payé une telle somme et il va faire ce qu'il a envie de faire.
Non, c'est parce qu'il y a des précédents aussi. Tu vois, Neymar, par exemple, qui était un génie incroyable, oui, mais peut-être gâché aussi dans...
Je suis d'accord avec toi, sauf que des fois, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas envie d'être Ronaldo, Messi, Neymar. Il a envie d'être bon, d'être un génie, c'est un fantasme, on le voit par ses habits, la manière dont il est ses tenues vestimentaires. Mais le mec, il sait que c'est un génie, il sait qu'il a, il sent le foot, etc. Mais peut-être qu'il a pas envie d'être Neymar. Neymar, c'est son idole, mais il se dit moi, je vais avoir une belle vie, mais j'ai envie de profiter aussi, j'ai envie de faire des belles choses quand je suis sur le terrain. Et il le dit lui-même, quand je vais au centre d'entraînement, je suis au centre d'entraînement, je fais ce que j'ai à faire, et quand je suis en dehors, bah c'est un autre moment pour moi, pour chiller, pour me faire plaisir. Après voilà, il va grandir, il va se faire taper sur les doigts, il va faire des erreurs probablement, et on verra où il ira, mais on oublie des fois qu'en fait on n'est pas là pour ressembler à quelqu'un d'autre, et je pense qu'il a simplement envie d'être lui-même.
Il n'engagera peut-être pas des personnes de petite taille pour agrémenter
son anniversaire.
Il va apprendre un petit peu parce que bon,
ouais, il a 18 ans.
Il manque un petit peu, voilà, de maturité, comme on dit.
Il a 18 ans. Profiter, ça veut pas dire transformer en négligence ou en comportement à risque, en fait. Oui, ça dépend ce qu'on entend de profiter. Et là, on donne quand même des exemples
d'excès.
Et on prend en comparaison un mode de vie des joueurs de foot brésiliens. Il y a quand même quelque chose
justement,
tu n'as pas du côté germanique, c'est un
c'est
peu
pas
plus
dans
strict,
la culture.
Quoi, c'est moins.
Bon, t'as pas fait la fête de la bière à Munich, toi.
Oui, alors il y a
pas beaucoup de football, mais très rapidement, il y a l'anecdote légendaire de Souleymane Diawara qui avait signé au Girondins de Bordeaux, qui touchait pas un cachou depuis son arrivée. Jean-Louis Gasset, l'adjoint de Laurent Blanc, il lui dit mais qu'est-ce que t'as changé ? Je sais pas pour. Pourtant, je me couche tôt, je bosse, je me lève, je vais courir et tout. Gasset lui dit bon, écoute Coco, tu sais quoi, tu vas aller prendre 2-3 cuites et sortir à Bordeaux là. Et moi, c'est comme ça que je te veux. Il s'est exécuté et il a fait une saison légendaire avec les Girondins. Ils ont fini champion de France.
Et il marque, je crois d'ailleurs, juste après.
Face à l'OM.
Et Olivier, très rapidement, parce qu'après il y a les contre-attaques.
Alors très rapidement, ça touche un point très important de l'évolution d'un footballeur et qu'il soit un génie encore plus. C'est que tu parlais de Neymar, ce qui est très important aussi, c'est de savoir quel est l'entourage, comment était élevé cet enfant, comment ses parents l'accompagnent, et la mentalité, elle est déjà là avant. Le seul truc que ça va, le bémol pour lui et la pression supplémentaire, c'est que maintenant il va être regardé de très très près.
Bon, on reparlera sans doute de Lamine Yamal dans les grandes gueules du sport, la star du Barça évidemment, qui est un personnage central désormais du foot mondial. Dans un instant, les GG contre-attaque. Il vous reste quelques minutes, une minute pour voter là. Il reste plus beaucoup pour essayer de faire gagner. Pourquoi pas Sarah Pitkowski, mais une autre GG peut se défendre également. Restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, 10h48, Alison Pino, Olivier Giraud, Sarah Pitkowski, Simon Dutin ce matin. Dans un instant, on parlera des Jeux Olympiques. Tiens, ça fait presque un an déjà, et on va faire le bilan. Héritage, est-ce qu'il est déjà enterré avec les dernières déclarations du gouvernement ? On en parle dans un instant, on parlera de rugby également après la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Mais d'abord, les GG prennent les commandes de l'émission, vous le savez.
RMC. Les GG contre-attaque.
Les grandes gueules du sport qui vous ont proposé un débat, c'est vous qui avez choisi votre débat préféré. Dernier ex aequo à égalité. Les deux handballeurs du plateau. Désolé pour vous, avec ton débat sur Trump, Olivier Giraud, et ton débat sur Gabby Williams. On l'a cité dans l'émission, les GG au All-Star Game. Voilà, on en a parlé. Alison Pino à 23%, tous les deux. 24%, deuxième place.
C'est pas mal.
Pour Simon Dutin, qui s'est bien défendu avec son débat autour de Galtier et de ses déclarations.
Contrat rempli, on ne gagne pas, on ne finit pas dernier. Voilà, voilà. C'est la
base. Tu ne gagnes pas énorme. Énorme.
30% quand même pour Sarah Pitkowski.
Ouais.
Qui s'en fiche. C'est l'important, c'est de gagner. Ouais. C'est comme sur le terrain avec Sarah.
C'est clair.
Hein oui, bah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas tout le temps marché. Hein.
Sarah, donc tu l'emportes avec ce débat autour de Pogacar. On en a parlé d'ailleurs en tout début d'émission. Et de ce Tour de France qui commencera en Slovénie, c'est ça ?
Ouais, c'est une petite idée. le Tour, on sait qu'il a un rayonnement mondial, qu'il peut aussi partir de d'autres pays et pas nécessairement frontaliers. Et le fait de partir en Slovénie serait peut-être un petit clin d'œil à la génération des cyclistes slovènes avec Pogacar et Roglic. Alors évidemment, c'est un petit pays, mais ça montrerait une certaine puissance du cyclisme. Et puis, ce serait une forme d'hommage. Alors, c'est sûr qu'il faudrait le repenser différemment parce que la Slovénie, il faudrait quand même bien anticiper le parcours parce que les transferts seraient aussi un petit peu compliqués. Mais il y aurait peut-être aussi un profil de course qui serait très intéressant parce qu'il faudrait commencer par la montagne. Exactement, par les Alpes. Donc ça changerait les premières étapes qui sont généralement plutôt plates. Donc, ça briserait le schéma classique et puis peut-être que les favoris attendraient la deuxième semaine pour se dévoiler. Donc voilà, je lance une petite bouteille à la mer auprès de l'organisation ASO. Pourquoi pas un départ en Slovénie dans les prochaines années, sachant que ça s'est déjà fait. Les défis logistiques, il y en a eu au Danemark. Je crois que c'était en 2022 le départ du Danemark.
Ouais,
2022.
J'ai fait le...
Il y a eu Londres en 2007. Les Pays-Bas. Donc voilà, je pense que ça pourrait être pas mal d'ici les prochaines années, les 3-4 prochaines années d'un départ de Ljubljana.
L'Italie l'an dernier, l'Espagne
évidemment.
Il y a 2 ans.
Oui, c'est Barcelone l'année prochaine.
Alors, ça pose un petit problème quand même.
Pour après revenir en France.
Bah ouais, il
faut
traverser quelques pays quand même.
On peut aller en Italie.
Google Maps.
T'as l'Autriche, t'as l'Italie, on arrive quand en France.
En termes de transfert, c'est pas. Mais on l'a fait sur le Danemark aussi, hein.
Tu peux passer par l'Italie.
Le transfert, il n'était pas évident. Après, il faut rester au moins 4-5 jours. Est-ce qu'il faut pas mettre une journée de repos?
Tu peux passer effectivement par l'Italie, comme le dit Alison. Voilà, c'est déjà de la montagne.
Il y a le Tour d'Europe, donc c'est plus le Tour de France.
Ça a souvent été la question de savoir est-ce que le Tour de France doit rester en France.
Si, carrément. Carrément, parce que le Tour de France est une compétition qui évolue, qui anticipe aussi face aux grands événements qui arrivent. Et les événements classiques n'existent plus. On voit la transformation du golf, on a vu la transformation du foot qui est en train d'être en pleine mutation. Il faudra que, par exemple, le foot féminin suive parce que le foot masculin est en train de prendre une dimension mondiale, internationale.
T'as des compétitions mixtes en judo qui se sont créées. En athlétisme, tu as la même chose, tu as des relais mixtes. En fait, effectivement, tous les sports et toutes les
compétitions
disciplines.
Sont sur plusieurs pays maintenant.
En général, réfléchissent plutôt bien à leurs compétitions.
Les organisateurs du Tour d'Italie ont aussi dit pourquoi pas un Giro qui partirait d'Australie en 2027.
Ah ouais, parce que
là,
transfert logistique.
Là, c'est compliqué. On dit que le vélo est écologique.
Ah ouais,
dans les océans.
On me souffle un contre-la-montre sur le bateau. Comme ça, tu perds pas de temps.
Ça serait sympa, franchement.
Tu vois,
pourquoi pas?
Tout est possible,
il faudra bien un jour que le Tour visite les départements d'outre-mer. C'est quand même, serpent de mer et ça... Ça se fera tôt ou tard.
Et le vélo est très suivi dans le département d'outre-mer.
Évidemment, il faudra y aller. Mais pourquoi pas faire sinon des petites étapes un petit peu plus longues. Je vous rappelle que je vérifiais, c'est en 1919 l'étape la plus longue du Tour, 482 km, les Sables d'Olonne, Bayonne.
Et pourquoi 1919, voilà. Les Sables d'Olonne.
T'imagines, déjà qu'en voiture, tu prends ton élan, en vélo, les Sables d'Olonne, Bayonne. Donc, on peut imaginer qu'en 2-3 étapes comme ça, tu rentres de Slovénie, tranquillement. Voilà.
Petite carte postale sur la Slovénie, tiens, puisqu'on est dans les grandes gueules du sport. Et toi, tu n'as pas joué en Slovénie, Olivier.
Contre la Slovénie et en
contre
Slovénie.
Contre la Slovénie.
Et en plus, grande Slovénie.
Oui.
Alison, elle a joué pour une équipe de Slovénie. Hein. C'était en Slovénie,
c'était à Ljubljana, à la capitale.
Ah, oui, Ljubljana. Alors, c'est bien la Slovénie.
C'est génial.
Puisque c'est la période de vacances.
C'est beau. Hein,
exactement. Mais il y a beaucoup d'expats. L'été, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui viennent en Slovénie. Et les gens sont toujours agréablement surpris et ils disent on reviendra. Donc je fais un peu la pub de la Slovénie. Mes petits week-ends escapades de 3-4 jours.
Très très beau.
À faire, vraiment. D'accord. Vraiment.
On mange bien parce que moi ce qui m'intéresse.
Alors on mange très très bien puisque au niveau gastronomique il y a cette influence italienne oui. Du coup aussi allemande, autrichienne, j'ai envie de dire. Et on y mange très bien, un peu moins cher que la France, mais ça reste quand même coûteux.
Ah oui, d'accord.
Ouais, quand même. Ça reste un peu coûteux, mais vraiment.
Il y a Maribor aussi qui est très.
Ouais, il y a Maribor qui est très joli. Sassoli, il y a Ljubljana, il y a le sud, il y a Bled, il y a le lac de Bled.
J'ai joué en Yougoslavie.
Ah oui, à l'époque. Ah oui,
non, la Slovénie faisait partie.
Il y a les caves de Jasna aussi.
Il y a en Yougoslavie.
Oui, tout à fait.
Dont la Slovénie faisait partie.
Dont la Slovénie faisait partie. La Croatie et la Serbie.
Accessoirement. On l'oublie, mais accessoirement, elle faisait partie.
Simon, dans la Slovénie, pour les vacances ?
Pas encore, mais peut-être un jour en pèlerinage sur les terres de Tadej.
Non, mais ils adorent le vélo en plus, là-bas. Ils sont vraiment fans.
Quelqu'un sait d'où il est?
Je ne sais pas si c'est Vélo. Ah non, non.
Comme il grimpe, ça ne doit pas être loin de la montagne quand même.
Bon, en tout cas, lui, il a dit ça serait un rêve, évidemment, que le Tour de France démarre en Slovénie en 2029. Et là-bas, ils sont à fond. Hein, ils sont à fond pour que ça se passe, c'est ce que tu nous disais, Sarah. Et voilà, le Premier ministre s'est exprimé aussi là-dessus. Et ils aimeraient bien, effectivement, voir le Tour de France passer.
Il est né à Klanec.
Klanec, ouais.
Alison, Klanec.
Je ne connais pas. Désolé.
T'es resté combien de temps d'ailleurs en Slovénie ?
3 ans.
Ah oui, quand même ! Donc tu parles le slovène ?
Non, je ne parle pas le slovène, mais je parle le serbe-croate.
Ah oui, ok.
À tout de même.
D'accord.
Et oui, parce que je n'ai pas joué dans les pays balkans, je n'ai pas joué quand même en Slovénie.
Et comment on dit, on revient tout de suite dans les GG en serbe-croate ?
Ouh là là, là c'est la vraie colle ça.
C'est difficile, à tout de suite. Comment on dit à tout de suite ?
Videmose.
Voilà, bah voilà, vous l'avez compris, on va revenir tout de suite. On va essayer de parler
Slovénie plus tard.
À plus tard, mais donc voilà. Petite carte postale slovène, ça fait du bien dans les GG du sport en cette période de vacances. On vient tout de suite, on va parler gros sous Jeux Olympiques, c'était il y a presque un an, on est déjà en manque. Tiens, les dernières annonces du gouvernement sur des économies à faire et le sport n'est pas épargné à nouveau. L'héritage des Jeux est-il déjà enterré ? C'est la question qu'on vous pose. 32-16, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les grandes gueules du sport ce matin en direct. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.